Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Oiseaux de nuit, bonne insomnie. Vous écoutez Il était une science, ce sera un bonheur.
Il était une science. Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs de Transistor et remercions Pauline qui a accepté de me rejoindre pour animer cette nouvelle émission scientifique de Transistor pour ce deuxième numéro. Et aujourd'hui, nous allons parler de mathématiques. Ne partez pas en courant. Nous allons parler d'un nombre dont vous entendez parler depuis votre plus tendre enfance, il s'agit du nombre pi. Et ne vous inquiétez pas, les maths, comme vos profs de maths vous l'ont sûrement dit chaque année depuis le début de vos années de collège, eh bien les maths, ce n'est pas quelque chose de complètement abstrait, c'est quelque chose qui nous entoure et dont on n'a pas fini de parler, comme le rappelle le générique de cette série télévisée bien connue.
On utilise chaque jour les mathématiques pour prévoir le temps qu'il fera. Savoir l'heure qu'il est, pour gérer l'argent. Les maths, c'est bien plus que des formules ou des équations. C'est de la logique. Les maths, c'est bien plus que des formules ou des équations. C'est de la rationalité. C'est se servir de son esprit pour résoudre les plus grands mystères qui soient.
Alors pour ceux d'entre vous qui l'auraient oublié, le nombre pi dont nous allons parler aujourd'hui, eh bien c'est tout simplement le rapport constant entre le périmètre d'un cercle et son diamètre. Alors, il n'y a pas que vos profs de maths qui étaient obsédés par ce nombre. Dès l'Antiquité grecque, les mathématiciens ont cherché pourquoi ce nombre était bien tel qu'il est, puisqu'il est toujours constant, quel que soit le cercle que vous prenez, vous trouverez toujours pi en divisant le périmètre par le diamètre, et ils ont essayé de découvrir les propriétés cachées de ce nombre, et de voir en quoi il pouvait expliquer un peu notre monde.
Oui, tout à fait, tu le dis très justement, finalement, le nombre pi, c'est une affaire de scientifique, mais c'est également une affaire d'histoire. C'est « il était une science, il était une fois », et ce qui m'a fasciné en m'intéressant finalement à ce nombre, c'est que ce n'était pas seulement « il était une fois », c'est qu'il était des fois. C'est-à-dire que finalement, le nombre pi, avant d'être une affaire de simples mathématiciens grecs dans l'Antiquité, en fait, c'est un peu l'affaire de tout le monde, très rapidement. Il y a eu un peu... pourrait-on dire, une époque héroïque du pi, puisque dans un ouvrage sur les secrets du nombre pi, j'ai lu que dès la Bible, en fait, il semblait qu'il y ait eu des références à ce nombre finalement pratiquement divin. Et je lis, on pourra lire dans la Bible, au verset « Roi, il fit couler une mer de fonte, elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre, une forme parfaitement ronde, 5 coudées de hauteur et un cordon de 30 coudées mesurer sa circonférence. » L'auteur enchaîne, nous laissons au lecteur le soin de calculer la valeur de pi employée ici, le résultat étant 3. Donc ce qui est déjà fascinant, c'est que avant même d'être dans l'ère historique, de s'inscrire dans l'histoire des hommes, eh bien pi est pratiquement affaire de religion, affaire de divinité et de perfection peut-être.
Oui, exactement, pour les premières civilisations, on avait déjà remarqué qu'il y avait toujours un rapport à peu près constant, à peu près de 3 entre les grandeurs mesurées dans un cercle, dans quelque chose de circulaire et entre le tour qu'on devait faire pour le circonscrire.
Oui. Donc d'où cette sensation finalement, cette intuition de perfection si fascinante. Et donc je citais la Bible, on pourrait dire au commencement était pi. quoi qu'il en soit, je disais également il était des fois, puisque au-delà de la Bible, il y a eu beaucoup de personnes, non seulement à toutes les époques, on parlait de l'Antiquité, mais ensuite après Jésus-Christ, à l'époque classique et à l'époque contemporaine, qui se sont intéressées à pi évidemment, mais également sur toutes les sphères du globe. C'est-à-dire que c'est une affaire d'histoire, mais également une affaire de géographie. On pourra donc citer les antiques grecs, mais il y a également les Indiens, les Chinois, les Arabes et d'autres Européens, les Allemands, les Hollandais. Et donc ça c'est aussi quelque chose qui va de pair finalement avec cet aspect un peu fascinant du nombre pi, c'est qu'il y a une intuition universelle en fait.
Oui, oui, voilà, exactement. Nous, on a l'appréhension de pi qu'ont eu les Grecs parce que on est les héritiers directs de la culture grecque. Donc pour nous, pi, c'est d'abord Archimède, c'est ensuite Ptolémée. Mais sous des noms différents, pi, c'est une lettre grecque, sous des noms différents, les Chinois, les Indiens, à la même époque, c'est-à-dire assez tôt, ont travaillé sur ce nombre pi. Les Arabes ont récupéré les travaux grecs pendant notre Moyen-Âge, quand ils étaient les plus perfectionnés en mathématiques, mais finalement, c'est toujours le même nombre pi que toutes les civilisations ont cherché à débusquer.
Oui, voilà, parce que quand on retrace l'histoire de pi, je note comment, au passage également quelque chose d'intéressant, c'est que l'évolution et l'histoire du nombre pi suit aussi beaucoup l'évolution et l'histoire des mathématiques à proprement parler. Mais ça, on y reviendra par la suite. En ce qui concerne donc l'aspect plus historique et géographique du nombre pi, j'ai cité la Bible, mais et on revient souvent au fait que c'est plus Archimède qui est le premier à vraiment théoriser un peu pi.
Oui, Archimède a beaucoup travaillé sur la géométrie et les nombres dans la géométrie, tout ce qui semblait un peu impossible avant, donc la quadrature du cercle, c'est en lien direct avec pi, mais il a aussi trouvé une méthode, par exemple, pour inscrire une sphère dans un cylindre, et trouver une formule du volume d'une sphère à partir de ça, donc qui fait intervenir à nouveau le nombre pi, beaucoup de géométrie avec Archimède en fait.
D'accord. Mais ce qui est également intéressant, c'est qu'avant même Archimède et l'Antiquité grecque, on note que sur un papyrus égyptien, Rind, l'une des plus anciennes sources mathématiques que les experts font remonter à environ 1650 avant Jésus-Christ, on trouve aussi déjà une référence indirecte au nombre pi. Donc ça, simplement pour la petite histoire. Alors Archimède, c'est donc au 3e siècle avant Jésus-Christ, et c'est dans son traité de la mesure du cercle qu'il théorise plus avant le nombre pi. Il y démontre, il procède notamment à une démonstration qui permet de lier l'aire du disque et celle du triangle, ayant pour base de longueur le périmètre du cercle et pour hauteur le rayon. Et cela débouche sur le résultat suivant. Il y a une même constante dans le rapport entre aire du disque et carré du rayon, et entre périmètre et diamètre. Et donc finalement, c'est cette démonstration d'une constante qui vraiment est intéressante en ce qui concerne pi, parce que en ce qui concerne la définition exacte de pi, justement, il n'y en a pas. Je parlais d'intuition tout à l'heure, d'intuition de quelque chose à propos de pi de la part de tout le monde partout dans l'histoire et sur la planète. C'est aussi, cette notion d'intuition, elle a partie liée avec ce que c'est que le nombre de pi, c'est-à-dire ce qu'il n'est pas en fait, puisque pi n'est jamais que des approximations. Et c'est quand même intéressant ça interpelle, non?
C'est-à-dire qu'on va y revenir après, mais c'est vrai qu'en mathématiques, on ne définit pas, à haut niveau de mathématiques, on ne définit pas pi comme le rapport entre le périmètre et le diamètre. On le définit à partir de considérations d'analyse qui n'ont plus rien à voir avec la géométrie, mais seulement avec des maths pures.
Voilà. Toujours est-il que du coup, dans l'histoire à proprement parler du nombre pi, en lisant un petit peu, j'ai remarqué que les auteurs s'étaient très longtemps affairés à trouver un chiffre quasi exact pour définir pi, à toujours l'approcher en fait sans cesse. C'est-à-dire qu'il revient toujours, la question est sans cesse à combien de décimales va-t-on parvenir après la virgule pour définir pi. Et donc du coup on arrive, les scientifiques sont très contents, ils ont trouvé 5, 10, 20, 30, 110 décimales, etc. J'ai trouvé ça intéressant dans l'histoire et la problématique que représente le nombre pi, parce que finalement on a l'impression que c'est évident un nombre clé en mathématiques, mais on n'a fait jamais que l'approcher pendant très longtemps, c'était la préoccupation constante, et en même temps il échappe sans cesse, et c'est vrai que j'ai trouvé ça assez intéressant. Pour la petite histoire, parce que on est aussi là pour ça, peut-être pour des petites anecdotes, je voudrais quand même mentionner certains faits. Alors notamment, c'est la germaniste qui parle, j'ai remarqué qu'on devait à un Allemand un certain nombre de choses à propos de pi. Donc cet Allemand, c'est Ludolf van Toylan, je ne sais pas trop comment on prononce son nom. Toujours est-il qu'au XVIe siècle, il est obsédé par pi, et à l'époque, il arrive à 35, je crois, décimales après la virgule, ce qui est beaucoup pour l'époque et qui est une avancée majeure.
Oui,
désolée,
oui.
Je rigole, mais voilà. Il est tellement obsédé par ça que dans le milieu, si j'ose dire, eh bien, on appelle pi désormais le nombre ludolfin, donc de son prénom. Et par ailleurs, il est également si fasciné par ce nombre qu'il il demande à ce que le nombre soit inscrit sur sa tombe. Il faut quand même le faire. Enfin, je veux dire, quand on arrive à ce degré de fascination, c'est assez troublant. Et également, une autre anecdote que j'ai trouvée relativement intéressante, c'est à propos, donc, encore une fois, donc, bien sûr, de pi, mais cette fois avec un autre scientifique français qui s'appelle Lani. Et alors, en fait, ce scientifique est cité dans le tome 9 de la première édition de l'encyclopédie. Il est professeur d'hydrographie et mathématicien. Et en 1719, il calcule pas moins de 12 décimales de pi. Surtout, ce qui est intéressant, c'est la petite anecdote. C'est-à-dire qu'en fait, on raconte que son collègue, Maupertuis, lui a rendu visite sur son lit de mort. Et il a trouvé, du coup, le corps sans aucun signe de vie, évidemment. Et pour s'en assurer, Maupertuis lui aurait murmuré à l'oreille: quel est le carré de 12 ? Sachant bien que tout amoureux des nombres ne peut résister à un tel défi, et que c'était l'ultime défi. Et donc le prétendu cadavre aurait sauté pratiquement de son lit et clamé d'une voix de stentor 144 et rendu son dernier soupir. Je trouvais ça assez intéressant de se dire que
la folie des mathématiciens.
La folie des mathématiciens, voilà. Mais ça, c'était juste pour la petite histoire. Pi égale 3,1415926534518973238436243834.
Bon, et bien, pendant que Pauline a sombré dans la folie des mathématiciens et est partie dans la déclamation de toutes les décimales connues de pi, je pense que j'ai tout mon temps pour vous parler de quelques points techniques. Alors d'abord, l'infinité des décimales de pi.
3, 7, 5, 1, 0. 5, 8,
les mathématiciens 2, 0, ont mis 9, 7, 4, 9, un 4, long 4, temps 5, avant 3, 0, d'admettre 7, 1, que 6, 4, le nombre 0, 6, pi n'était 8, pas décimal, 6, c'est-à-dire 2, qu'on ne pouvait 0, pas l'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. En fait, 8, pi 6, n'est même pas 2, rationnel, 8, par exemple 0, 2 tiers, 3, puis vous le savez 4, tous, c'est égal à 0,666666, etc., mais je ne vais pas tomber dans les mêmes travers 3, que Pauline. 4, eh bien, 2 tiers 2, est rationnel, 1, c'est-à-dire qu'on peut le construire 1, à partir des chiffres 2 7, et 3 en les divisant. 0, alors que 6, pour pi, 9, et comme pour d'autres constantes, 2, comme par exemple racine 1, de 2, eh bien, ce sont des nombres qu'on ne peut 0, pas construire simplement juste à partir de fractions, c'est des nombres qu'on appelle irrationnels. Et encore mieux, pi est transcendant, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas le construire à partir d'opérations simples. Par exemple, la racine de 2, il suffit de l'élever au carré pour retrouver un nombre simple qui est 2. Pi, on ne peut pas, on peut le mettre au carré, on peut le diviser par 5, on peut faire ce qu'on veut, on ne trouvera jamais un nombre simple, un nombre entier. Actuellement, il existe encore un débat entre les mathématiciens pour savoir si pi est un nombre univers. Un nombre univers, c'est un nombre donc de développement décimal infini, mais suffisamment infini, entre guillemets, pour trouver n'importe quelle séquence de chiffres dans son développement décimal. Le nombre univers le plus simple, c'est 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Puisque dans son développement décimal, vous mettez tous les nombres possibles, n'importe quelle séquence de nombres va s'y trouver. Alors le nombre de décimales de pi est infini, mais on ne sait pas si dans ces décimales, on peut toujours trouver n'importe quelle séquence de nombres. Alors maintenant, on peut revenir un peu sur de la géométrie, puisque c'est ça qui, au départ, a motivé l'intérêt des hommes pour pi. Et revenir à Archimède et la méthode dont Pauline vous a parlé, qui permettait d'approximer pi. En fait, c'est très simple. Si vous regardez un cercle, eh bien, c'est un peu un polygone avec un nombre infini de côtés, un polygone régulier. Si vous prenez un triangle, puis ensuite passez au carré, au pentagone, à l'hexagone, etc. Et si vous restez régulier, vous allez vous rapprocher d'un cercle. Un octogone, par exemple, est plus circulaire qu'un hexagone. Et donc, l'idée d'Archimède, c'était de construire des polygones de nombre de côtés qui grandissaient sans cesse, qui tendaient donc vers un cercle. Et à chaque étape, on peut calculer précisément l'aire, puisque c'est un polygone, c'est facile de calculer l'aire, et on tendait vers l'aire du cercle, qui est égale à pi fois r au carré, où r est le rayon du cercle. Alors, de manière plus moderne, plutôt que de recourir à des techniques géométriques, on préfère actuellement recourir à des ordinateurs. Si vous avez envie de faire mumuse avec Pi et votre ordinateur, vous pouvez aller voir PiFast, c'est un logiciel super rigolo qui vous permet de calculer autant de décimales de Pi que vous voulez, ça occupe des longues soirées d'hiver. Et alors ces techniques algorithmiques informatiques de calcul de Pi, elles se basent sur une technique assez simple qui a été mise au point par un certain John Machin, et ne soyez pas surpris quand vous tomberez sur son nom dans un texte de maths, oui ça vous arrivera, on ne dit pas John Machin, pourtant ça s'écrit pareil. Machin s'est basé sur des équations assez simples, un peu tordues, mais bon, il faut être mathématicien, comme par exemple le fait que pi sur 4 est exactement égal à 4 fois arc tangente de 1 cinquième moins arc tangente de 1 239e. En combinant cette équation avec des équations plus ou moins simples, selon que vous ayez fait des maths ou pas concernant l'arc tangente, vous pouvez aboutir à des suites qui, comme la suite d'Archimède des aires de polygone, va tendre finalement vers pi. Et donc se rapprocher de plus en plus à chaque étape, et dans le monde des décimales infinies, se rapprocher de plus en plus et calculer de plus en plus de décimales justes.
Oui, merci Nicolas pour cette explication. Tu as mentionné le fameux logiciel que j'ai personnellement téléchargé, avec lequel j'ai fait mumuse, personnellement, ah oui. Pendant une longue nuit d'automne, hein, il y a quelques jours. Tout ça, justement, pour me ramener à une remarque, qui est que quand on fait l'historique de l'évolution du nombre pi et de son étude, on remarque en général donc trois périodes, celle de l'Antiquité, avec l'étude dite géométrique du nombre de pi, l'époque classique, à partir du 17e à peu près, où la mise au point d'outils de calcul intégral va permettre d'avancer dans la connaissance du nombre pi, et enfin la période actuelle avec celle justement des ordinateurs numériques, des logiciels, etc., qui permet des calculs que l'esprit humain ne peut pas. Alors en fait, du coup, c'est une question très simple probablement, mais je me demandais dans quelle mesure, si tu pouvais nous expliquer finalement pourquoi on dit qu'à partir de Leibniz et Newton, c'est-à-dire à partir du XVIIe siècle, le calcul de pi n'est plus un simple problème de mesure de polygone, mais devient un problème mathématique.
Ben en fait, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'à partir de Leibniz et Newton, bon, surtout Leibniz, mais ils ont travaillé ensemble sur ça, c'est les premières formulations de ce que tu as appelé le calcul intégral. C'est-à-dire que à partir de cette époque, en maths, on commence à raisonner sur des quantités qui sont infiniment petites, mais qui, additionnées, forment quelque chose de visible. L'exemple qu'a pris Leibniz pour formuler cette théorie au début, c'était de dire que dans l'océan, chaque goutte d'eau fait un bruit qu'il est impossible d'entendre, mais qu'à elle toute, les gouttes d'eau vont former le bruit des vagues qu'on peut entendre.
D'accord.
Et donc Newton a utilisé ça en particulier en physique, mais à partir de Leibniz, les mathématiciens ont développé ce qu'on appelle le calcul infinitésimal, qui s'est transformé ensuite en calcul intégral. Et donc les mathématiciens ont pu reformuler les considérations géométriques d'Archimède en disant que les aires des polygones, c'était des nombres dont la distance à pi était de plus en plus petite. Et donc à partir de Leibniz, les considérations géométriques de nombres de plus en plus proches de pi, elles ont été acceptées par les mathématiciens. Avant, ils voyaient comment ça marchait, mais ils acceptaient pas qu'en mathématiques, il y ait quelque chose d'infiniment petit, mais de non nul, ou ce genre de choses. À partir de Leibniz, les mathématiciens ont commencé à raisonner sur l'addition de quantités infinitésimales. Un exemple de la vie de tous les jours, ou des maths de la vie de tous les jours plutôt, c'est la somme des inverses des puissances de 2. Si vous prenez le nombre 1 et que vous lui ajoutez 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième, etc., en ajoutant à chaque fois la moitié de ce qui vous reste à parcourir pour arriver à 2, bien vous allez finir par arriver à 2, vous ne le dépasserez pas, mais vous n'y arriverez jamais. À chaque fois, il vous manque un petit quelque chose pour arriver à 2. Si vous faites une somme infinie sur tous les inverses des puissances de 2, à la fin, vous pouvez concevoir que vous allez arriver à 2, mais au bout d'un calcul infini. Les polygones d'Archimède, c'est exactement la même chose. Au bout d'un nombre infini de polygones de plus en plus proche du cercle, vous allez arriver au cercle. Et une autre formule assez rigolote qui fait intervenir pi alors qu'on ne voit pas tout de suite pourquoi, c'est la somme des inverses des carrés. Si vous faites la somme de 1 plus 1 quart plus 1 neuvième plus 1 seizième, etc., eh bien, vous tendez vers pi carré sur 6, de manière complètement inattendue.
D'accord. Donc, est-ce que finalement, j'ai cette impression hein, là, en tant que profane des mathématiques, que pi, finalement, quoi qu'il arrive, on finit par tomber sur lui.
Non mais c'est vrai, c'est complètement vrai. Dans tous les domaines des mathématiques, au moment où, et de la physique et des sciences, au moment où on s'y attend le moins, il y a pi qui apparaît.
D'accord. Finalement, je disais, quoi qu'il arrive, on tombe dessus, et pas seulement les mathématiciens ou les scientifiques, mais également tout le monde dans la culture.
Ben oui, exactement, on a énormément de références culturelles. Alors actuellement, dans la culture populaire, on a évidemment, dans les films, dans les romans, etc., il y a une certaine tendance à utiliser les mathématiques pour rajouter une part de mystère. Et il est vrai que, vu l'omniprésence de pi en mathématiques, on retrouve évidemment pi dans tous les ouvrages qui traitent de près ou de loin de la mathématique. Donc voilà, c'est un nombre qui fascine toujours autant. Il a des propriétés vraiment remarquables, le fait qu'on le retrouve partout. Mais même lui-même est passionnant parce que, on l'a dit, il est infini, il est encore partiellement compris par les théoriciens des nombres. Et il n'a jamais été aussi connu qu'actuellement avec le développement des sciences, des mathématiques.
Mais en même temps, le nombre pi qu'on ne fait toujours qu'approcher, et voilà, en fait, on ne le connaît pas, on l'utilise.
Exactement. On le connaît de plus en plus à force de l'utiliser.
Oui, bien sûr.
Mais par exemple, on sait, on a prouvé, je ne sais pas si je l'ai dit, qu'on n'aboutira jamais. Finalement, on va encore sortir cette phrase de Socrate, mais la seule chose qu'on sait sur pi, c'est qu'on ne sait rien sur lui. C'est que on a prouvé que il avait un nombre infini de chiffres après la virgule, parce que si c'était un nombre fini, ça serait un nombre rationnel, c'est une fraction. Ce qui est intéressant à dire par rapport à l'originalité de pi, c'est que les nombres comme lui, qui sont transcendants, qui ne sont pas solutions d'une équation algébrique, il y en a une infinité. Et il y en a même une infinité encore plus grande, on fera peut-être une émission sur les différents infinis en mathématiques, il y a une infinité encore plus grande de nombres transcendants que de nombres entiers. Et pourtant, pi, c'est un nombre qu'on va retrouver tout le temps. Il est baigné dans une mer de nombres aussi bizarres que lui, mais c'est toujours lui, exactement à la décimale près, si c'est possible de le dire, qu'on va retrouver dans toutes les mathématiques, dans les cercles, dans la géométrie, dans notre vie de tous les jours, finalement. Lui et quelques autres nombres, comme le nombre d'or. Le nombre d'or, il est pas transcendant, donc il est un peu moins intéressant. Il y a la base du logarithme népérien, mais qui est quand même beaucoup moins présente dans notre vie de tous les jours. Pi, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout. Et toujours.
D'accord. Nous sommes sans doute loin d'avoir saisi tous les aspects de ce nombre un petit peu étrange, et en tout cas fort attirant, que représente pi. Donc pi, partout, toujours, au final, rien de pire, sans doute.
Bon voilà, donc c'était la fin de ce deuxième ou premier numéro d'Il était une science, en tout cas en ce qui concerne les mathématiques. Le prochain épisode sera le numéro 3, et 3 tout pile, non pas 3,1415, etc. Et nous reparlerons de physique, puisque nous allons aborder les principes de la thermodynamique qui, malgré leur nom barbare, sont très présents dans notre vie de tous les jours, dans notre culture, mais surtout dans l'histoire des sciences.